on va quand même prendre 45 minutes. Donc, bienvenue à l'atelier numéro 1, qui va porter sur le thème « Concevoir et développer avec les objets d'apprentissage ». So, « Create and develop with learning objects ». Mon nom est Éric Cormier, je suis de l'Université du Québec, de la direction des bibliothèques et du soutien technologique à l'enseignement. Et donc, au cours des 3 prochaines minutes, nous entendrons 3 panélistes. Et bien entendu, nous vous entendrons à la fin, nous gardons quelques questions. Donc, vous pouvez noter vos petites questions en cours de route. Notre rapporteur sera Terry Fancott, qui est Associate Dean Specialist Project in Engineering and Computer Science à l'Université Concordia. Nos 3 panélistes experts qui ont bien voulu nous parler de ce sujet sont Stephen Downs, qui est Senior Research Officer with the National Research Council of Canada, Moncton, au Nouveau-Brunswick. He is affiliated with the Canton Institute for Information Technology, where he works with the e-learning research group. Monsieur Downs a une large expérience en enseignement, enseignement en ligne, la coordination, le design et tout. Et je pourrais vous parler de lui longtemps, mais on va plutôt le laisser parler. Il y a entre autres de nombreuses publications sur le sujet, tout récemment sur le thème « Educational Blogging »,« From Classroom to Learning Environment », »,« A Mid-Range Projection of E-Technology » et « The Rise of Learning Objects » en mars dernier. Notre deuxième conférencier sera M. Griff Richard. He's the director of the... Oh, ça va être bon, si vous pouvez l'entrer. He's the director of the Laboratory for Ontological Research at Simon Fraser University, Surrey. He has been researching the use of computers in education for about 25 years. In the last 5, with his colleague, Mark Atala, he has been involved in several large projects to develop ways of storing and sharing learning objects. More recently, he has been focused on the development of the EduSource communication protocol for linking learning objects repositories around the world. Griff lives in Victoria, British Columbia, but he works in Vancouver and seems to spend most of his time in Montreal. Last week, he organized the LARNET conference and the Semantic Web Interest Group meeting here in Montreal, and next summer, he will return to co-chair the EdMedia 2005 conference. So, c'est une plug. À la fin, il y a EdMedia conference à Montréal. Enfin, notre troisième conférencier, Gilles Gauthier, qui est doyen de la Faculté des sciences à l'UQAM. Gilles est aussi membre observateur au sous-comité d'éthique de la CLECUC. Il est aussi le premier président du groupe de travail sur les normes au Québec. Le groupe de travail, donc, qui s'intéresse à cette question, il va sûrement nous en parler tout à l'heure. Il est aussi, Gilles, il a été membre de la délégation canadienne au PNL du comité ISO-SC36 de la dernière année à Dublin, aussi à Montréal en mars dernier. Donc, je vais m'arrêter là pour laisser nos conférenciers s'exprimer. Monsieur Dame.
Okay, well, hello everyone, and thank you for coming out. It's always a pleasure for me to come to Montreal. This is my home, the place where I was born, and I always feel at home here. I'm going to precede my talk with a couple of quick remarks, because when I go to a conference like this, I never know what sort of environment that I'm going to be in until I'm in it. So I have no foresight whatsoever. And I find myself at McGill. And it's funny, all the time that I've been in Montreal, I've never wandered around the McGill campus, so it's very interesting. It's a very traditional university institutional setup, and I find myself a little out of place here, which is an interesting thing. There's been a lot of talk at this conference so far about how to get professors to be better teachers. And I was thinking about that, and I was thinking that at least part of my is to get professors to not be teachers, professors to be researchers, and to let the research itself do the teaching. That's a preliminary. I don't know if we'll get back to that, but that's my main overriding thought so far in this conference. The topic of this presentation is object-oriented learning objects. And I do come from a point of view which is distinct, I think, from the institutional approach to online learning. I have, for maybe 5 years or so now, abandoned the idea of learning as conducted in courses and programs. I've gotten away from the idea of learning as something that is practiced strictly and only in educational institutions such as this one. Tony Bates talked a lot about continuing learning, and one of the things that we know about continuing learners is that they're not likely to sit down for a 39-hour class when they need to learn something. And it seems to me that it's a requirement in order to make the benefits, the affordances of the technology available to their maximum extent, that we think of learning as something that is provided not only to the students that are in our classrooms, but to society as a whole. And so the approach that I take to learning objects is an approach which is based on, fundamentally, first and foremost, wide accessibility to learning. Because without that, I don't believe there's a point. Hopefully it still doesn't work. Didn't work 2 minutes ago, but I've forgotten that. I use the term online learning instead of e-learning, typically, because I'm interested in the characterization of learning as it is delivered using information and communicating technologies. I'm interested in the communications aspect rather than the e-aspect. E-learning could be anything. It could be CD-ROMs. It could be PowerPoint slides. I'm interested in learning as an exercise in communication, using electronic communications, rather than learning as prepackaged content material which is wrapped up, sealed, authenticated, and delivered as though it was a book or a movie. There are two major aspects to e-learning. Online learning content, which would be the nature and the structure of learning objects, and online learning environments, which would be the organization and to some degree the manner of distribution of learning resources or learning objects. I'm very conscious that I only have 10 minutes. I will stop at 10 minutes even if I'm not done. So I'd like to get at least as close to that as possible. The dominant paradigm today that to a large degree nobody uses is that of the learning object. IEEE defines a learning object as any entity, digital or non-digital, which can be used, reused, or referenced during technology-supported learning. I take that definition quite literally. I think that anything can be a learning object, absolutely anything. My definition of learning objects is based in use. If something is used to support learning, then it is a learning object. I also approach the picture of learning objects a bit differently from the traditional model. The traditional model of learning objects is that these are reusable pieces of digital content that you can put together, and typically you put them together to form courses or programs. Wayne Hodgins, in his original definition of learning objects, described them as being like Legos. David Wiley says Legos are too universal. They're more like atoms. I have a different picture. The different picture, I use the horse and the palm tree as the metaphor. Where learning objects are not objects in the sense that you plug them together like Legos, but learning objects are like entities in an ecosystem. They were not designed for each other. They are not organized in a certain sort of order. they do interact, and they are found and offer certain affordances within an environment. And we typically talk about, and Gilbert Paquet talked about, learning environments, but my approach to e-learning takes this more broadly. I believe that any environment is suitable. A classroom, a restaurant, a fishing rod, a jar of strawberry jam, these are all the places we should find learning objects. The big idea here, e-learning not as static course-based resources that you lock up into a vault and charge access for, but e-learning is dynamic, unstructured stream, like electricity, like water, and be obtained, organized, and I have talked about learning objects as being analogous to words in a vocabulary used by learners and, for that matter, by instructors. And therefore, the picture of e-learning that I promote is e-learning as a conversation. And this is how, to take this a little off topic, instructors can stop being, or professors can stop being teachers, if professors participate in a community of practice, and if they speak to each other in something like multimedia objects, then these objects, when located in an environment, are learning objects. The idea here is that professors can be researchers, and through the dialogue conducted in their research, they thereby teach. Conversations. We are learning about conversations on the web. We have examples of conversations on the web. I've done work, as was mentioned in the introduction, in weblogs, and in particular, weblogs used for education. We have mechanisms, a grammar, if you will, of this conversation in the form of RSS, which is a content syndication language. It's a way of representing content in such a way that it can be retrieved remotely through automated processes. Open Archives Initiative is like RSS. It's the same kind of thing, same mechanism, except it's currently used for academic journals and publications. There's a whole range of tools that have been developed along this metaphor. Wikis, content management systems such as PostNuke, so on and so forth. The model here is aggregation and re-aggregation. Unfortunately, I will not be able to go into these sites to show you, but the idea is learning resources are made freely available. And I emphasize the freely. The minute you put a lock or a barrier on this, you break the network. You make it impossible to share. It's like putting a lock on a word. Imagine you could not use the word "the" in a conversation because it's owned by Microsoft.
That's copyright in that word.
Yeah, there you go. People talk, Gilbert talked about the search for learning objects and the way you'd search for things in order to insert things. Using the mechanism of RSS and treating learning objects as though they were similar to blog posts, elements in a conversation, and setting up a network of aggregators and re-aggregators, the network itself becomes the search. Your fishing rod, when it wants to teach you how to fish, does not do an internet-wide search of learning objects. Your fishing rod is the output point in this network, and the network itself handles the search for you. I've done some work in the mechanisms behind this to make this work. There's an informal group beginning discussions on this subject. Extending RSS to incorporate learning object metadata. The idea here is that learning takes place in a community. This community can be anything. It can be, as I said, a fishing rod, a restaurant. Examples of such communities are simulations, games. Jay Cross talks a lot about workflow learning. And the idea is that the learning eventually follows the user place to place wherever they go. And that's all the time that I have. Thank you very much, and I really appreciate you coming out.
Mais aujourd'hui, je vous parle plutôt de l'étendue de l'importance des repas, parce que moi, je crois qu'ils sont toujours importants. Je vais vous montrer. Voici un autre apprentissage. J'étais au Mexique il y a 3 semaines, puis j'ai fait une belle photo, parce que je suis touriste dans la église, puis. Quand j'ai mis un petit peu de ta chanson, j'ai pensé, ah, je vais utiliser cette photo parce que c'est une image intéressante. Et ça montre un peu que n'importe quelle chose peut être un objet d'apprentissage. Et aussi, ça montre si tu plans en avance, tu crées un bon fondation et une belle structure, une bonne architecture, tu vas avoir quelque chose qui est valable, qui dure longtemps. Mais n'importe qui, n'importe quoi peut être un objet d'apprentissage. Il a un purpose, c'est pour partager. The changeable, je peux le modifier. Le value, c'est dans le contexte d'utilisation. C'est pas dans le contexte toujours de la façon qu'on les fait, c'est la façon qu'on veut l'utiliser. Et les standards, ils n'existent pas. Voici un objet d'apprentissage. Un autre, je peux l'utiliser. Et je dis ça parce que tout le monde a une dans sa poche. Et tu sais que c'est un autre objet qui est la valeur et dans le contexte. Quand l'autre de papier n'a aucune valeur. Mais c'est quand je vole un vase, j'ai acheté un fichier de la bière, donc c'est de valeur. Et si j'ai un objet comme ça, je suis dans mon domaine local, j'ai une flexibilité de l'usage. Et si le monde pense à faire des contrefaits, ah voilà, je peux changer un petit peu, je peux l'ajuster, parce que j'ai besoin de le garder au courant. If I have local authority, I can have control, authority, trust. Ça ne vaut pas la peine d'avoir les notions de 5 pièces parce que les magasins ne sont pas. Reliable et strictly. Je sais demain, ça va m'acheter une fiche de bière, en 2 ans, ça va m'acheter une pinte. Mais quand je sors de mon communauté, des vins se gâtent. Ce n'est pas juste l'argent qui vient qu'il faut. Il faut avoir d'autres objets d'apprentissage. Puis, si je vais en Europe, il me faut des euros. Si je vais en Mexique, il faut des pesos. Et si je vais en Angleterre, c'est toujours des livres. Tous ces morceaux, ils ont à peu près la même valeur globalement. Mais ils sont vraiment différents, parce qu'ils ont un contexte différent. Mais si je sais à quoi ça vaut, il y a des. Dans mon marché local, I can create local exchange and reuse, but if I move across the world, I've got some problems. But there are places that can intermediate that. Quand j'arrive à l'aéroport, il y a toujours un casier qui dit, bon, pour un livre, je vais vous donner 4 morceaux canadiens, pour des pesos, je ne vous donne rien. Donc, on a aussi dans notre système financier, on a des repositories. Le repositoire, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose qui est juste pour les éducateurs. Puis, qu'est-ce que c'est quoi ça? C'est un place qui est sécure, c'est un place qui regarde l'identité et les compétences des objets. C'est un place qui est mieux organisé que moi, c'est à moi-même. C'est un place qui a des community priorities. The Merchants Bank s'occupe des besoins des marchands. Les banques des fermiers s'occupent les besoins des familles. Et la Banque des commerces, ça s'occupe des besoins de la Banque des commerces. Et la chose qui est importante, il y a des interactions avec les autres repositories. But there's other repositories. I also have a repository here. Parce que des fois, j'ai gardé mes objets avec moi pour les utiliser quand j'ai besoin. Peut-être, oui. Voilà, c'est l'autre repositoire. Plein des objets, je ne vous pas demander quoi. Tout le monde peut avoir plusieurs repositoires. Mais on arrive avec la question des repositoires. Ici, là, c'est le repositoire de la mort. Parce que quand j'étais en Mexique et quand je suis parti des mondes, ils m'ont donné un chèque. Ça, c'est le fameux chèque en haut. Ils m'ont donné un chèque pour mes dépenses. Et quand je suis arrivé au Canada, je suis allé à la Banque de Montréal, et voici mon chèque de compte de Mexique. Je dis, bon, qu'est-ce que tu fais en face avec ça? Ben, je veux avoir mon chèque. On n'a aucun moyen. Peut-être qu'on peut avoir un emprunt, un chèque ici, on peut avoir un emprunt pour. Bon. Mais c'est vrai, l'autre, c'est un chèque qui vient du Canada parce qu'ils ont perdu mon guitare. Puis, mais le Banque de Montréal est capable de dire avec ça, ils me donnent de l'argent, c'est pas pour rien. So we need interoperability between instances, entre des gens, entre des communautés, mais ça prend des bons ententes. Si on n'a pas de bons ententes, ça ne marche pas. Le Banque de Montréal n'a jamais eu de bons ententes après l'échange avec le Mexique, donc il n'était pas capable d'échanger le chèque. C'est la même chose avec les repositoires, avec des gens, avec des éducateurs, avec des pays, avec des communautés de papier. Si on pense bien, on peut faire beaucoup de choses ensemble. Et voici, c'est une autre chose qui arrive récemment, c'est Authentic. Ça, c'est une carte Visa, c'est pas la mienne. Ça vaut pas la peine de compter le numéro. Mais ça, maintenant, une identité unique, c'est-à-dire à qui je appartiens, ça apporte quelques trust, de confiance, c'est beaucoup usé après les transactions, surtout si on passe de pays à pays à pays. Mais, la fin de ça, c'est beaucoup de logiciels, de systèmes en arrière, back-end security, authenticated systems, et ça devient dur. Mais ça rend ça facile. Bon, je ne vais pas faire des démos parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais juste montrer une chose. Bon, ça c'est notre flashlight, et là c'est un search. Bon, ici j'ai plusieurs repositoires sur des sites d'éducation, le monde a dit, voyez, on est d'accord pour partager nos choses. Puis France, c'est nous autres, Explore, c'est ici à Montréal, Smith, aux États-Unis, Edna, en Australie, Carrie, au Calgary, RDN, c'est un repositoire en Angleterre. Sauf qu'ils ne gardent pas des objets d'apprentissage, ils gardent seulement des prix durs sur les objets d'apprentissage. De bon, on a des bons commentaires. Savis, Québec, Hilaire, c'est un autre site qui garde seulement des revues, mais c'est des revues que n'importe qui peut dire, bah, j'ai utilisé un tel objet, puis c'est ça que je pense de ça. Adib, c'est à base. En tout cas, on a juste dit, bon, on va faire un sale, on va dire check out. Et ici, je veux chercher.
Pinceau.
Pas vraiment, il y a eu déjà des tests que ça ne marche pas. En tout cas. une minute. Deux minutes. Oh, I've got lots of time. Oh, yes. That's a no. Bon. On a frappé ça, puis on voit ça. Mon site à la CFU, ça a pris sept messages, ça a envoyé sept mots, et c'est le passeport, qui commence déjà à répondre. Puis on voit que Smith aux États-Unis, il y a quelque chose qui marche aussi. Des fois, les choses sont décrochées. Et même chose avec Athabasca, mais j'ai deux en Colombie-Britannique, j'ai beaucoup en Australie, j'ai 10 en Finlande, c'est dans l'Atlantique, puis en Angleterre, j'ai 17. Donc, maintenant, tu sais, avec Google, c'est exactement la même chose. On avait des grandes sites pour avoir plusieurs métadonnées, pour chercher par les champs de ils sont gâtés du petit Google. Et l'autre chose, on sait qu'ils ne cherchent pas les plusieurs pages, les premières pages. Ils disent, bon, je regarde les premières pages, je vais ajouter beaucoup plus de termes pour faire mon search.
recherche.
En tout cas, pour revenir à ça, mais ici, je veux simplement, si je vois qui a la plupart des choses, si je veux avoir un cercle plus précis, je vais aller directement à RDN. Je vais ça, c'est la seule chose que je veux. Ça fonctionne, c'est vrai, c'est pas. Les autres. Voilà, c'est un petit page. Je ne sais pas si ça manque bien. En tout cas, tout ce que je voulais montrer là, c'est. Voilà, c'est un. Each language group is on the left. That's the number of web pages. Pour les anglais, il peut être 50 pages de web pour chaque personne, pour chaque anglophone. Pour les francophones, il y a 5. Pour les chinois, il y a une demi-page. Et c'est important parce qu'on commence à partager nos objets d'apprentissage sur tout le monde, puis on trouve qu'il y a un marché vraiment, il y a des information glut, a source and a sink. Mais on ne va jamais arriver là avec un programme qui a l'air comme ça. Il faut vraiment en faire des efforts pour faire des choses en chinois. Puis on travaille avec les chinois maintenant, avec ces idées. Puis d'autres choses, on sait, c'est des formulaires, ça ne fonctionne pas beaucoup. Alors si on voit qu'il y a beaucoup de nouvelles façons de ramasser des choses, comme Furl ou Flickr, c'est pas Flickr, c'est Flickr. There are two new websites where you can go for social bookmarking. So anybody can participate in harvesting and sharing information. Bon, dans l'avenir, qu'est-ce qui va arriver? On va avoir des meilleurs tools, d'outils, open source collaboration, c'est très important. On va avoir des connexions, des réseaux d'apprentissage. On va voir aussi l'utilisation des technologies sémantiques qui va nous aider à faire des liens plus moins rigides. Mais si ça va être dans cette place, je ne sais pas. Ça, c'est une bonne question. Je sais où j'habite dans Victoria. On commence à enlever les ordinateurs des salles de classe. Parce que les enfants, ils ont les meilleurs ordinateurs à la maison qu'ils peuvent avoir à l'école. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir des devoirs. Les enfants, ils vivent toujours avec des devoirs à faire sur l'ordinateur. Mais dans les salles de classe, bon, c'est plus compliqué. Les enfants sont beaucoup plus vite adaptés. Merci.
Merci. Et maintenant, M. Gauthier. C'est plus calme, je pense que c'est lui. On est loin de ça.
Alors, comme on m'a demandé de participer à cet atelier, mais on m'a demandé ça il y a plus d'un an, et à ce moment-là, j'ai dit oui. J'ai la mauvaise habitude de toujours dire oui. Et une fois que j'ai vu le titre « Concevoir et développer avec des objets d'apprentissage, impact sur les méthodes d'ingénierie pédagogique, avantages, limites et enjeux », c'est le sujet de l'atelier aujourd'hui. Alors, je me rattache comment à ce titre. Et il y a le mot « enjeu ». Donc, j'étais correct. Donc, ce que je voudrais parler un tout petit peu, c'est des aspects que j'intitulerais « Normalisation, diversité linguistique et diversité culturelle ». Et sur le programme, c'est marqué que je suis doyen de la faculté des sciences, mais ça n'a absolument rien à faire. Et ce que je vais, ce dont je vais discuter, donc on parle d'accessibilité. Déjà, là, dans une étude qui avait été faite par Cyril Simard, on indique les 5 défis de la formation en ligne, les aspects d'accessibilité, associer les métadonnées aux ressources d'apprentissage pour être capable de les rechercher, les identifier, d'y accéder, de les livrer. Mais ça ne garantit pas l'interopérabilité. Alors, je voudrais seulement parler de certains aspects des difficultés que l'on peut avoir avec l'interopérabilité et le genre de travail qu'on essaie de faire ici au Québec dans ce sens-là. Alors, le contexte, donc, le fait que je sois doyen de la faculté des sciences, c'est indiqué, ça n'a aucune utilité. Ça va plus, parce que les choses dont je vais parler sont plutôt reliées au fait que j'ai présidé depuis 2 ans le groupe de travail sur les normes au Québec. Je vais en dire quelques mots tout à l'heure. Que je suis associé au comité consultatif canadien pour les autres CEI TC1 et C36. que je suis délégué du Canada pour ISO, le C36, et aussi la délégation canadienne pour le groupe de travail 1. Et c'est plutôt ces choses. Ils avaient mis autre chose, mais quand j'ai vu que j'avais 10 minutes, j'ai pas le temps de m'occuper des autres choses. Donc c'est surtout ces aspects-là qui vont faire, c'est l'expérience que j'ai acquise dans ces choses qui vont faire la suite de mes commentaires. Donc le GTL, le groupe de travail sur le Québec, c'est quelque chose de relativement unique au Québec. Nous avons eu du ministère de l'Éducation le mandat d'assurer une veille sur l'évolution des tendances, formuler des avis et des recommandations pour répondre aux demandes du gouvernement et des établissements scolaires d'enseignement, produire une étude sur l'application des normes et standards de formation en ligne au Québec, et assurer une présence sur les canadiennes internationales. Et sur cet aspect, disons, on a eu beaucoup d'aide de la part du gouvernement du Québec pour pouvoir être présent au niveau canadien, au niveau international, et organiser d'autres activités. Donc le GTN, les membres du GTN, qui est unique, représentent les trois ordres d'enseignement. Donc au GTN, il y a des gens qui sont du niveau primaire-secondaire, des représentants du primaire, du secondaire, du collégial et du niveau universitaire. Les ministères sont présents, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil du Trésor. Des sociétés sont présentes, la GRIC, Télé-Québec, Novacis, et des organismes comme l'OUF, l'Association universelle de la francophonie, et la CREPU. Et le GTN a été, décembre 2002, c'est le début officiel du GTN, mais Robert sait très bien que ça a débuté à peu près une année avant, jusqu'à mai 2004, le GTN était sous la responsabilité de la CREPU et du sous-comité d'éthique qui organise cette conférence-ci. Et depuis juin 2004, le GTN est devenu un peu plus autonome. Donc, l'endroit où il habite actuellement, c'est au siège social de l'Université du Québec, et c'est Mme Cormier qui se dévoue. Et le GTN, une des choses que le GTN a fait, il a fait une étude qui s'appelle Normétique. C'est un profil d'application du standard LOM, Learning Object Metadata. Donc, un profil d'application, essentiellement, ce qu'on a fait, c'est d'indiquer les différents éléments, lesquels sont requis, lesquels sont optionnels, et lesquels on n'a pas besoin de remplir, de donner les valeurs pour les éléments. Parce que dans le LOM lui-même, si vous mettez rien nulle part, c'est bon. Sauf que pour ce qui est de l'interopérabilité, lorsqu'on veut développer quelque chose pour une communauté, et la communauté pour nous avec le groupe de travail sur les normes, j'ai indiqué tout à l'heure, c'est principalement tous les ordres d'enseignement du Québec, où le ministère de l'Éducation investit déjà beaucoup, ce n'est pas suffisant. Donc nous avons développé et ça a été publié sous licence Open Content. Et le document est disponible sur le web. Alors, si on regarde le LOM lui-même, 9 catégories, 57 éléments de données simples. Et si on regarde seulement certaines d'entre elles, dans la catégorie générale, il y a un élément « language ». Nous avons eu la difficulté, comment est-ce qu'on traduit en français « language » ? Alors, ça semble évident. Quelqu'un a traduit ça par « langage ». Normétique, nous avons traduit par « langue ». Alors, pour la question de l'interopérabilité, on a un problème ici. Comment on traduit educational? Comment on traduit dans la catégorie educational, par exemple, typical age range? Quelqu'un a traduit par tranche d'âge typique. Nous avons traduit avec normétique par tranche d'âge. Nous avons pris nos définitions, les définitions qui étaient données par le CEN, le Comité européen de normalisation, et vers la fin, lorsqu'on était presque à la fin de normétique, de développer notre guide, bien, ils ont retiré les définitions du web. Que je pense qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'ils avaient écrit. Dans le sens qu'il y avait beaucoup d'ambiguïté. On avait pensé régler certaines ambiguïtés en mettant d'autres tokens. Alors, là, le problème, c'est-à-dire que si on veut, on ne peut pas faire les choses uniquement en anglais. En tout cas, pour le Québec, c'est inacceptable. Et pour les Français aussi, c'est moins inacceptable pour eux que pour nous, mais c'est quand même. Alors, un autre exemple d'enjeu, si on regarde l'élément 1.3, language, FR-CA. Eh bien, ici, ça va bien parce qu'on utilise des normes. On utilise ISO 639-1 pour le FR. On va utiliser ISO 31-106 pour le CA, pour le Canada. Mais on a quand même un problème parce qu'ISO 639-1, ça n'a jamais été adopté comme norme nationale par le Canada. Parce que ce n'est pas suffisant. Par exemple, ALG et langue algonquine n'ont pas d'équivalent dans ISO 639. Ce fait que le Canada a refusé d'adopter une telle norme internationale. Alors, ce qu'on propose, c'est d'utiliser 639, trait d'union 2, terminologie. C'est-à-dire essentiellement d'utiliser trois lettres pour les noms de langue. Donc, FRA ici. Si on regarde le 5.6 contexte, la valeur c'est cool. Mais on peut y mettre là un vocabulaire. Mais quel vocabulaire utiliser? Si on regarde la date, mais pour la date, il y a moins de problèmes, c'est ISO 8601-2000. Donc, toutes les fois qu'on a une norme, dans le fond, on est capable de renseigner la valeur de nos éléments, mais on a un problème avec certains éléments. Un autre exemple, toujours le 5.6, les valeurs dans le LOM, c'est School, Higher Education, ça doit être sur la même ligne, Training and Other. Mais pour la communauté québécoise, il va falloir avoir autre chose. Par exemple, on pourrait penser préscolaire, primaire, secondaire, collégial, université, formation continue, formation d'entreprise. Si on regarde ce que le ministère de l'Éducation fait maintenant, au niveau primaire, il y a différents cycles primaires, il y a différents cycles secondaires. Donc, comment on tient compte de ces choses-là? Est-ce que le travail qu'essaie de faire le GTM, c'est développer des vocabulaires pour pouvoir l'utiliser dans le GNOM, dans le cadre du profil d'application normétique. Et de façon à ce qu'on puisse échanger ces vocabulaires, qu'on puisse avoir l'interopérabilité, on veut utiliser Vocabulary Definition Exchange dans une spécification, ce qui va permettre de normaliser nos vocabulaires, d'être capable, peut-être autrement, si j'utilise quelque chose que je ne peux pas partager avec d'autres, bien dans le fond, on perd l'interopérabilité. Si on regarde le coût, parce qu'au Québec, vous avez aussi dans les universités, et là, le fait que je sois doyen, j'ai rencontré mes professeurs, on a discuté, on a parlé de mettre des ressources d'apprentissage en ligne. Tout le monde est d'accord d'utiliser celles de tous les autres. Les leurs, les mettre en ligne, c'est autre chose. Donc, on a des problèmes de propriété intellectuelle, on a des problèmes de droit d'auteur. Donc, comment on fait? Le LOM nous donne la possibilité de yes et non. Ou bien, si on regarde une description, et si on regarde normétique, on a utilisé la licence Open Content. Mais si on utilise une langue naturelle comme ceci, lorsqu'on va vouloir faire des recherches, on a des problèmes d'interopérabilité. On a des problèmes de précision à récupérer les élèves, les ressources d'apprentissage qui nous intéressent. Et si on regarde aussi, et au Canada, vous savez qu'on utilise, il y a Creative Commons, il y a une version pour le Canada, qui est iCommons. Eh bien, le GTL, on aimerait probablement développer un vocabulaire pour être capable d'utiliser iCommons au lieu d'utiliser seulement des yes et des no. Une autre chose que le GTL a fait, lors de la rencontre plénière de ISO qui a eu lieu à Montréal, 10? Depuis le dernier, donc j'ai quand même trois. Ce qu'on a organisé à Montréal, on a organisé une conférence, ce qu'on appelait une conférence ouverte, un open forum, un colloque international, qui s'appelait les normes de la formation en ligne, vers l'enrichissement et le partage du patrimoine éducatif. C'est un autre aspect, un autre enjeu important. Dans le fond, on veut partager, on veut construire un patrimoine, on veut construire des actifs. Donc, ça n'a pas de sens si chacun le fait de façon propriétaire ou si chacun le fait pour soi. Il faut que quelque part, il y a de la valeur à bien faire les choses, à partager, et à partager avec le tiers-monde, à partager avec... si vous allez voir, le lien est indiqué dans www.patrimoine-éducatif.cam.ca, mais vous avez juste à mettre norme de formation en ligne dans Google, puis vous allez trouver ça. Et vous allez voir les conférenciers, et on a eu l'appui, le ministre de l'Éducation est venu faire l'ouverture, et on a eu des gens de la Banque mondiale, on a eu des gens d'un peu partout pour une présentation. Le sous-comité de 36, donc désiré par le Conseil canadien des normes, alors vous avez le site web ici, donc c'est le sous-comité. Il y a l'ISO et il y a la CAU, la Commission électrotechnique internationale. Et dans le cas des domaines qui touchent l'informatique, il y a un sous-comité commun qui est le Joint Technical Committee 1, il n'y a pas deux, il n'y a pas de trois, il y a juste un, sous-comité 1, commun. Et dans ça, il y a des sous-comités, le sous-comité 36 s'intéresse au e-learning. Et si vous êtes, vous pouvez aller voir, les gens ont l'impression que c'est tout secret, mais si vous allez ici sur le site, et si vous, allez, vous avez ici un document de librairie, tous les documents à 95% sont accessibles. Tous les documents. Les seuls qui sont pas accessibles, ce sont les, ceux pour lesquels on se chicane. Dans lesquels on... Les, par exemple, si on doit avoir, on doit donner un avis sur un document, et chaque pays donne son avis, parce que c'est les pays qui sont membres, chaque pays donne son avis. Cette partie-là n'est pas publique, vous avez besoin d'un mot de passe pour savoir ce qu'on dit. J'ai entouré un drapeau en particulier, parce que c'est intéressant, c'est depuis le 12 novembre, la Fédération de Russie fait être un membre observateur du SC36. Non. Et il y a quelque chose qui est un peu négatif avec le SC36, à part que le Kenya, c'est tous des pays du Fer Nord, à l'exception de l'Australie. Donc, vraiment, ce n'est pas, la planète n'est pas couverte adéquatement. Et un autre enjeu, si on regarde le vocabulaire, le groupe 1, donc c'est le groupe de travail qui définit le vocabulaire pour le e-learning et qui définit le vocabulaire qui va être utilisé par le C36 lui-même. Et juste un exemple, vous avez 36.0.9, Blended Learning en anglais. Et le Canada joue, au niveau du C36, un rôle que je considère très, 30 secondes, que je considère très important. Le Canada se préoccupe de la diversité culturelle. Le Canada se préoccupe qu'on ne retrouve pas l'anglais uniquement dans les normes. Et de façon à ne pas retrouver l'anglais uniquement, c'est un exemple où on a l'anglais et le français. Et ce que ça permet ensuite, c'est d'avoir un identificateur, par exemple ici, pour ce token. Et ensuite, chaque pays peut ajouter ses traductions. Dans les difficultés qu'on a eues avec le profil normétique, pour savoir quelles étaient les traductions à utiliser, devraient disparaître plus tard. Parce que dans le fond, on va faire au niveau ISO, on va mettre les termes français et anglais. Et la façon dont le Canada a réussi à convaincre les autres pays de faire anglais et français, c'est que ça permet de lever les ambiguïtés. On a joué à un jeu où seulement les termes anglais, souvent il y a une ambiguïté. Si on les traduit en français, on lève certaines ambiguïtés. Et ensuite, ça permet à tous les autres pays de faire le travail pour leur langue. Et le WG4, donc c'est essentiellement ce qui est arrivé depuis le temps. Le LOM, le Learning Object Metadata, le LTSC de I3E a déposé, c'est une liaison avec ISO, a déposé à ISO le LOM. Actuellement, il y a un travail qui est en train de faire pour en faire une norme internationale. C'est quoi la valeur ajoutée par rapport à ce que I3E a fait? Eh bien, dans le fond, ça va être une norme multipartie, mais le point important, c'est qu'elle va être bilingue. Tous les termes vont être anglais-français, avec possibilité d'extension dans d'autres langues. Ça va être basé sur ISO 639 près d'Union 2, T, c'est-à-dire les langues vont être avec trois caractères, et on va rencontrer différentes cultures pour un certain nombre d'aspects. Et juste pour terminer, à la plénière à Dublin, il y a une résolution qui a été votée pour voir s'il serait possible que le SC36 comme organisme participe à Tunis à l'automne 2005 au sommet mondial de société de l'information. Alors l'expérience qu'on a commencé à Montréal, où on a rencontré les gens, on l'a transmise à ISO au niveau de la plénière, et actuellement on essaie de mettre en place le fait de participer à Tunis dans ce cadre-là. Et donc, c'est un peu le rôle que le Canada essaie de jouer, de se préoccuper de la culture, de se préoccuper de nos langues officielles, et la possibilité pour les autres pays d'utiliser des langues, et de se préoccuper de construire un patrimoine éducatif. Merci.
Merci, M. Bourdin. Donc, les sujets sont bien intéressants. Dans mon guide, c'est écrit que l'animateur répondra à des questions, mais je suis certain que vous en avez plein de temps que moi. Donc, je vais vous laisser la parole d'abord. On va prendre quelques minutes. Oui,
Mets-toi au niveau, Daniel, donc le monde a honoré pour
faire. On a été enregistré pendant tout le temps, là?
It seems to me that it was very interesting to see Griff come up with that cathedral. And I'm sure all of you know of a famous essay about cathedral and bazaar, right? And when Jibin was talking this morning, he was putting two things side by side. He was saying open source and found bodies. And this comes again, you know, we see again this open source found bodies. I've done both, I've also been in the ISO committee, and I've done a lot of hacking, open source work. But I think they're totally different spirits. And yet people glue them on their slides as if they're really the same thing, but I think in spirit, please, they're very, it's different people in generally that do one or the other. Question, comment?
Well, what's the question?
How do you
How do those ideas coexist?
Yes, how do you make the two coexist?
Well, I find they coexist quite nicely. But then, so do I. No, I think that there is a body of, I mean, the cathedral you were looking at was a bank, and I used the bank in a metaphor. But I think that you can have banks of different sizes. And yes, there's always going to be a place for large repositories that are closed. They're called publishing houses. And they have a big place in the marketplace, and they do things. The other thing we find, we're also getting banks, repositories that are community-focused, that indeed allow, for example, three or four universities who want to share materials that they just don't want it to be public, but they are agreed to share amongst themselves. They can create these informal or formal networks, and they can put picket fences around them so that the students on their campuses can work with students on the other campuses without outside interference. There's a positive side to that and a negative side to that. The positive side is the picket fence, and the reason why the universities mostly want to put them up is not because they want to keep content in, it's because they want to keep the Recording Industry Association of America out. Because they're not making any money selling music anymore, they're making their money by suing universities, by saying, oh, you've got some content on your site someplace that somebody's supposed to do. So that's why the picket fences are going up. But I think there's more and more sharing taking place, and the software to make that sharing possible is more and more open source.
And now for the rebuttal. I sit on that same ISO committee. I don't do much on it, but I watch. And I've done work with standards, and also done work, genuine work with open source. And for the most part, the work that I do in things like RSS and even learning object metadata tolerates, but for the most part does not pay a whole lot of attention to the standards. And there are a variety of reasons for that. To a large degree, these standards are used not as mechanisms to enable communication, but as barriers to prevent it. Learning object metadata is a good example, and there was a lot of discussion on various lists. I think if you go back and look at the archives of the e-learning leaders list on Yahoo, for example, a lot of discussion when they came out, because people realized that there's no way you're going to be able to create free, accessible content where it's a requirement that 57 or 87 or whatever number of fields be filled out metadata, because the work overhead is too much. I've done work in the field of digital rights management. I've worked with the people doing the Open Digital Rights Language Initiative, which is a pretty loose and informal gang of people. It's been, ODRL has been adopted by the Open Mobile Alliance, so you can do these things pretty informally and still get them adopted. But the thing with ODRL is that the major competitor is a standard, quote-unquote, that was developed by a company called Content Guard, which was a front for Xerox, which is now owned by Microsoft, AOL, Time Warner, and as of a couple of days ago, Thomson Publishing. Content Guard claims that it has patents that say it owns the patents to, I quote, using language to express digital rights. Now, part of what, and this, I have to deal with this, right? Because I promote open sharing, but one of the things that's important about open sharing is you have to declare that people can use the content, right? You have to make it known to people that use is freely allowed, so that people don't accidentally step on Microsoft toes or the RIAA's toes. And what Content Guard has done is they've put people on all of these committees. They put people on MPEG and got XRML passed as an MPEG standard. They put people on ISO and now it's an ISO standard. And they have people on the IEEE Learning Technology Subcommittee, Digital Rights Expression Language Subcommittee. They have people on that, both from Microsoft and from Content Guard, and they're doing their darndest to push it through there so that the standard can be used to block open access. So I'm of two minds here. I see a standard as a vocabulary, a treaty, a recognition that we will use some sort of common framework. But I see the standards process used to a large degree as a way of owning that treaty, owning that language. Now when we talk about learning, e-learning as a conversation, what I see is people, companies, trying to own the words. And if Microsoft owns the words, then Microsoft owns the dialogue, and Microsoft owns the learning. I think there are huge long-term social consequences to that. So I sit on that ISO thing, and I watch, and they ran through a SCORM. The SCORM JavaScript just came through. I let it go through, looking at the JavaScript, and I realized when I looked at the JavaScript, this script won't run. It's a broken script. Great, let's go through. And that I do.
Oui, question.
Bonjour, mon nom c'est Craig Prince, Université Saint-Paul. J'ai quelques commentaires et quelques questions en même temps. J'essaie d'être vite, aussi vite que possible. Si je ne me trompe pas, vous, Gilles, ce que vous faites, vous essayez de faire un genre de standard ou médical. N'est-ce pas? À peu près. C'est une étape assez facile, apparemment, pour décrire que vos objets.
Donc, ça, c'est un exemple pour les enjeux par rapport aux aspects linguistiques ou autres, mais c'est là où ça existe. C'est un, c'est un standard et c'est en voie d'être normalisé à ISO.
Donc, c'est...
Mais c'est des batailles oui. Chaque fois.
C'est des nuts and bolts un peu là-dedans. On parle un peu de la manière pour rechercher tout ça comme les véhicules, les search engines. Did you splash that net you put up there?
Oui, mais on.
Is that like a filter net, basically? Really?
No.
Just searching for objects?
What we...
Is that sanitized, or...?
No, what it is when you search on Google, Google actually has an engine that goes out and indexes. They say everything, but it's not. And every day it's less and less of what's out there that gets indexed. The way the repositories work is the people have repositories, they tag their objects with metadata. And then they make that metadata available to search. Now, in a NSDL federation, every week NSDL harvests all the metadata from all the members and creates a big pool. So when you send them a request, they search the current metadata that their members have sent and send you the request back. The way our search works is a little different. We just take your search request and we pass it to the repository and say we have a request for a search for this term. And we leave it up to the repository how they want to process that. And what we find is that more and more as we go along, the metadata, the standard metadata is less and less used. The standards are too difficult to enforce. The standards mostly were created by people who weren't involved with education, and the educators don't relate to it, which is why they don't want to fill in the 57 or 85 fields.
My main question, really, I suppose, if I want to get to it real quick, what is the motivation behind anybody, any prof, deciding to stick these meta tags, or whatever else you want to call it? What is their motivation? I mean, you get a lot of peer-to-peer sharing and whatnot, and that only works as everyone shares. Mm-hmm. You usually have a couple of people who are actually putting this information out here, and you get the masses are actually consuming it. Most of the people that consume don't actually share.
Well,
what's different about this?
One of the things that makes different, and Stephen pointed to it, so I'll let him talk in a second, is aggregation. And what we're finding more and more is as people use objects, they are willing to say, hey, I found this great object. And they'll put something up on either a blog or on a website, or we actually have one that I was going to show you where people can, ELERA or the RDN, where people actually put reviews of good learning materials that they found up.
Most of the profs I deal with personally, anyway, I'm sorry, most of the profs I deal with personally, they don't want to share much of their teaching material with anyone else because that sort of removes their importance to an extent, how they're looking at it. They want to maintain their monopoly, however you want to put it,
yeah,
on whatever knowledge that they're
teaching. Yeah, but those people will retire, and the new people coming up every day. No.
Okay.
C'est l'expression.
I don't know.
À la faculté des sciences à l'UQAM, quand je disais tout à l'heure, la façon dont les gens se comportent par rapport à la propriété, c'est vraiment une question d'âge. Ceux qui sont plus âgés, ils tiennent, et les plus jeunes sont prêts à partager, en autant qu'on les supporte pour développer les produits, en autant qu'on les supporte pour développer les objets d'apprentissage, qu'ils aient de l'aide. Il y a beaucoup plus d'ouverture que...
Une petite question, je vais prendre ça de l'autre côté. On a beaucoup parlé de moyens de développer, de mettre en place des dépôts d'objets d'apprentissage, donc de recueillir et de rendre disponibles. Mais lorsqu'on parle de réutilisation, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que de façon générale, les gens qui développent, qui créent des modules, des cours, est-ce que l'habitude de réutiliser, la culture de réutilisation est-elle commencée à prendre place là, dans notre communauté?
Ça dépend des communautés. Il y a quelques communautés qui créent des objets expressément pour qu'ils puissent être réutilisés. Il y a des autres qui ne le font pas. Mais s'ils sont prêts à partager leurs choses, peut-être quelqu'un va les trouver et va les utiliser dans une autre façon. Par exemple, si je veux avoir une image de quelque chose, je vais aller à Flickr. Puis sur Flickr, tout le monde, c'est un site web que quelqu'un a créé. Est-ce qu'il y a du monde ici qui a des téléphones cellulaires avec des petites photos, des caméras? Bon. Ils ont dit, tout le monde va avoir everybody can have a cell phone with a camera in it. What are you going to do with the pictures? Why not give you a place to dump them? And instead of throwing away all that effort, we can have this big global collection of pictures.
Qui fait les metadata?
The people who put them in are free to create whatever metadata they want. And the nice thing with Flickr is, because it lets you create whatever metadata you want, with whatever fields, with whatever tags, they have an ongoing mining every day of the metadata, and the top meta terms are bubbling to the top.
Right.
And it's fantastic, because you can actually find stuff there.
It's the same with Blogger. Blogger creates metadata by itself. The person who creates a blog entry automatically creates RSS metadata, but they never even see it. A lot of bloggers don't even know they have it, but the system just does it. But it does it by capturing the information as it goes in, rather than the specific intent of the author.
We're moving away from a world where somebody has thought out all the possible tags and put them up on a form, and somebody has to fulfill them along. We're going to a world where the metadata is collected automatically,
right.
It's mined and harvested and synthesized, and the terms bubble to the top.
And that's what AGURSS does as well. On va s'envoyer comme dans
pas longtemps, ça va se mettre à tailler automatiquement. Donc, je pense qu'on a un beau défi de développement durable. Sustainable development.
Il y a une autre question.
Une autre question? Une petite?
Non,
c'est
une petite.
C'est votre verre de vin qui se pousse, là.
C'est pas une question, c'était pour réagir à la réutilisation des objets. Et il me semble qu'on dit souvent la réutilisation à soi-même. Parce que, comme professeur, évidemment, on intervient souvent dans plusieurs cours, on fait des interventions dans différentes conférences, dans différents cours, dans différentes clientèles, et nous serions les premiers tri
Oui. Et mon Dieu, que c'est dur de se trouver des choses sur mon propre ordinateur.
Donc je sais que c'est un bon argument blanc pour inviter les professeurs à conserver certaines ressources dans les cours institutionnels. Monsieur Petit,
oui, une petite question fermée. Jean-François Doutier, École Polytechnique. J'aimerais savoir, monsieur Doutier, si vous avez oublié quand est-ce que la norme ISO formée à terme.
Laquelle? Laquelle?
La norme concernant les états de vie.
C'est probablement dans 2-3 ans.
Alors, merci beaucoup tout le monde de votre participation. Donc, maintenant, on se rejoint à la salle principale de Plein-Air avant la dernière partie de la journée.
Donc, vous donner des informations de la construire la version de la grande partie. Ça, c'est stabilisé. C'est pour ça que d'autres, par exemple, le Comité européen d'organisation a des équipes pour essayer de traduire les tokens en anglais, en français, en finlandais, dans différents langues, pour qu'on puisse uniformiser.
Ça va être un token qui va remplacer dans les vocabulaires. Au lieu d'avoir des vocabulaires en classe,
si à ISO, ça se passe comme nous, on veut. Ben dans le fond, il n'y a aucune raison que ce soit le terme anglais qui fasse, qui soit le token qui est plutôt. C'est ça la ligne que j'ai mise, c'est-à-dire 2382, une fois que tu as ça, c'est que tu peux mettre ça dans le logiciel, et après ça, tu cliques et tu l'as dans la langue que tu veux. Et là, on passe. C'est ça. Et aussi, le problème actuellement, c'est que la commande de faire dans la norme, c'est de prendre des tokens en anglais, le vocabulaire en anglais. Oui, il n'y a pas le choix.
Ben, une fois qu'on fait dans Store, la partie française, c'est notre petite
interface.
Selon la langue.
Et donc, on pourrait très bien, si on avait pour chacun un token avec le nom de la norme ISO en question, avec un numéro pour chacun, ça identifie un token de façon absolue, de l'anglais et français qu'on veut avoir là-bas. Et après ça, chaque pays, par exemple, si on veut avoir, français québécois, français canadien, eh bien, le pays, le Canada, pourrait décider qu'il fait une traduction. Alors là, il y a deux exemples qui sont là. Il y a l'exemple en français ISO puis en anglais ISO. C'est en tête international. Ils sont là. Puis il veut dire au Québec, nous, on n'utilise pas l'anglais, on utilise l'anglais. Mais il n'y aurait plus aucun problème. On pourrait utiliser l'anglais. Et les Chinois auraient aussi les mots qu'ils veulent. Et chaque pays doit se
reposer. C'est le concept qu'on identifie dans la langue.
C'est ça. Tandis que maintenant, on a toujours été pris dans le monopole anglophone. Et les Anglais utilisent ça.
Juste au niveau des accents dans le nord, on n'est pas mieux.
Oui, mais nous, c'est vraiment, et au point de vue d'interface, comme tu dis, on solutionne tous les problèmes. Et dans le fond, on peut rentrer dans la langue qu'on veut, on peut passer d'une langue à l'autre. Mais quand tu sauvegardes,
c'est un point.
Et là, c'est la machine. Toi, tu t'en fous de ça.
Puis au niveau là, des vocabulaires comme tel, l'exemple que vous avez donné en français, il y avait 6 termes, en anglais,
il y en a 4. C'est que, par exemple, dans la langue, c'est que tu as des termes, une liste de valeurs proposées, mais tu peux utiliser autre chose.
Il faut avoir un méthode associée pour...
Non, mais le problème, c'est quand tu utilises autre chose. Mais comment tu veux chercher, c'est vous à la télé, vous utilisez autre chose, et nous on utilise autre chose. On va dire que mais nous on utilise autre chose à l'UQAM, puis à l'avant ils utilisent autre chose.
La lutte avec
le... je ne sais pas ce que c'est. Il suffit qu'on donne des fonds un peu différemment et faire de la puissance de recherche. Alors, ce qu'on fait au niveau du Québec, avec le groupe Travail sur les normes, qui est d'abord il y a des participants, c'est qu'on fait, c'est qu'on va définir un vocabulaire qui nous convient à nous au Québec. Et on va dire que la communauté québécoise, tous les ordres d'enseignement, c'est ça qu'on va utiliser. Par exemple, pour parler des compétences, on va prendre par exemple des compétences telles qu'elles sont décrites par le ministère de l'Éducation. Ce qui fait que quand tu donnes la valeur, tu donnes l'identificateur de la source, puis la valeur à côté. Mais la source va être un vocabulaire qu'on a défini nous-mêmes par rapport à nos besoins.
Mais tu parles directement dans le nom
ou
c'est
vraiment dans le nom directement, source et valeur. Source et valeur. Mais la source actuellement, quand tu penses qu'il est là, c'est l'homme V1. V.1. Mais tu peux mettre autre chose, là. Mais quand tu mets autre chose, là, tu mets quoi? Mais donc, il faut qu'une communauté s'engage.
Ça me fait penser à une autre affaire aussi. J'en regardais par rapport à l'angle, etc. Si on fait des normes au Québec avec les autres répertoires, ben, ça ne marchera pas.
Oui, mais c'est que pas, tu vois, c'est graduel, c'est un équilibre. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir des champs requis, des éléments requis, on en a 20 avec nos métiers. C'est pour dire que on a ça qu'on se donne en commun. C'est du travail des rangs. Il y a ça qu'on donne en commun. Si on ne donne rien en commun, ben n'a pas de problème qu'on fait une communauté. L'intérêt, une communauté. On se donne ça en commun. Et là, l'école primaire, l'école secondaire, ils ont des compétences du ministère, ils ont des choses comme ça. Mais après, on donne ces vocabulaires-là, et avec l'EDEX, c'est un vocabulaire XML, c'est une spécification pour décrire ce vocabulaire-là. Alors, ce qui fait que tu leur donnes un URI, une forme de source d'identifier, tu les décris, tu les rends accessibles dans un entrepôt, un registre. Et à ce moment-là, c'est que tu vois ça arriver. Mais premièrement, si tu fais partie de la communauté, tu vas savoir que tu vas participer à cette communauté. Si maintenant tu viens de Vancouver, tu sais quoi ça? Et là, tu vas aller à l'URI, tu vas l'avoir, tu vas voir la description du vocabulaire, et tu pourras, si tu veux, faire une traduction par rapport à ton vocabulaire que tu utilises. Parce que c'est ça aussi, tu regardes. Quand on regarde avec le log, il y a des aspects qui correspondent à Dublin Core. Mais c'est une table de correspondance. C'est une table de correspondance. Et là, comme c'est un vocabulaire XML avec une facilité, tu transformes dans un autre. Mais c'est sûr qu'en France, ces gens-là, le vocabulaire qu'ils auraient décrit pour le Québec, ils ne les intéressent pas. Donc, c'est vraiment un équilibre. On ne peut pas attendre.